de Françoise Mangeot, Giroflée. Œuvre publiée sous licence Art Libre. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistrée par Christiane Jehan. Giroflée. Au début, il n'y avait eu que de maigres entrefilets dans les journaux, les régionaux surtout, toujours à l'affût de faits divers, pas toujours vérifiés scrupuleusement, mais qui font vendre. Puis, ils furent de plus en plus nombreux, relatant des incidents inhabituels, parfois très étranges. Des vaches perdant spontanément leur lait avant la traite, des pondeuses faisant grève, d'un seul coup et toutes à la fois, des veaux n'engraissant plus, des canards vomissant leur gavage, des lapines mangeant leurs petits avant que l'éleveur ait pu les mettre à l'abri, des moutons atteints d'alopécie, de vilaines pelades. Un grand quotidien provincial fit rire tout l'ouest de la France, malgré le tragique de la situation, en relatant le cas d'un chasseur tué d'un tir de chevrotine en pleine tête. Un accident, oui, mais des témoins dignes de foi affirmèrent que le coup avait été tiré par un lapin, sorti brusquement de son terrier pour se jeter sur le fusil, bêtement chargé, accoté au talus pendant la pause roborative des 10 chasseurs. En Beauce, un céréalier, perché sur son énorme tracteur, tirant un épandeur Goliath de 24 tonnes, dégueulant de nitrate, eut à peine le temps de s'étonner de l'arrivée dans un ciel limpide d'un étonnant nuage noir, compact et mouvant. Assourdi par le grondement qui l'accompagnait, il mourut sur son siège, criblé de millions de piqûres d'abeilles kamikazes. Les spécialistes s'étonnèrent longuement de cette crise de folie des paisibles ouvrières, lesquelles devaient venir de fort loin. Les apiculteurs ayant depuis longtemps déserté la région tout entière, vouée à l'agriculture intensive, donc aux pesticides. Radio, télévision et grands titres de presse ayant cette fois relayé l'information, on apprit que pareille mésaventure était survenue en différents points du globe, notamment en Argentine et aux États-Unis. Paris Match consacra 2 pages à la découverte, dans une célèbre réserve africaine, des cadavres pantins désarticulés d'une troupe de braconniers éparpillés auprès de la dépouille d'un éléphant. Une défense sciée, l'autre encore en place, les jeeps réduites à l'état de ferraille, les kalachnikovs en miettes. Mais c'était en Afrique, et à moins de 2 journées de piste, des hommes se battaient férocement. Alors, quelques braconniers d'ivoire de plus ou de moins, ça n'intéressa personne. Les photos au soleil couchant sur la savane étaient splendides. Au cirque Pinglione, lors d'une représentation, les 2 tigres blancs, vedettes incontestées, refusèrent d'obéir aux ordres, négligeant la mèche cinglante du fouet et par d'habiles manœuvres d'encerclement obligèrent leur dresseur à grimper sur le tabouret et à sauter lui-même à travers le cerceau enflammé, avant de leur accompagner à 4 pattes dans leur propre cage. Le numéro fut très applaudi, acclamé longuement, mais il resta unique. Et quelques proches seulement surent que l'homme avait été hospitalisé dans une clinique psychiatrique où il est peut-être encore. Une vidéo de très mauvaise qualité fit le buzz sur Internet. Tournée, disait-on, avec un téléphone basique, on y voyait un maigre troupeau de moutons et de chèvres, comme on en croise couramment dans les Abruzzes, en Italie, s'ébattant amicalement au clair de lune avec une petite meute de loups en compagnie de leurs chiens, des patous réputés redoutables. De mémoire de berger, c'était une chose impensable. On parla d'un habile montage, pourtant bien improbable. Dans un parc animalier, réputé pour ses spectacles d'oiseaux en vol, les premières représentations à l'ouverture printanière furent un fiasco total. Les 120 oiseaux, censés offrir au public leurs balais aériens, restèrent obstinément, qui dans leur volière, qui sur leur perchoir, muets et immobiles, sourds aux exhortations des fauconniers et tout autant aux offres multipliées de provendes exceptionnelles. Même le magnifique milan noir, né dans le parc et élevé à la main, faillit, d'un claquement de bec, couper l'oreille de son soigneur, auquel il avait pourtant toujours prodigué des marques de familiarité et même de tendresse. Sur les grèves de toutes les mers du monde, les suicides de marsouins, dauphins, baleines, phoques, etc. se multiplièrent, créant des pestilences insupportables. Quand il en existait, les écarissages étaient débordés. Mais beaucoup de lieux dits paradisiaques assistèrent impuissants à la fuite des touristes, écœurés. Une fuite salutaire d'ailleurs, car les requins mangeurs d'hommes, assez rares à vrai dire, devenaient légions. Ils se manifestaient, littéralement en troupe, jusque sur les plages les plus improbables, où, de mémoire de riverain, on n'avait jamais entreaperçu le moindre aileron. On compta 4 baigneurs dévorés à la Baule, 3 à la Ciotat, et même 2 à Berck-Plage. À côté de ces événements spectaculaires, les comportements inhabituels des animaux se manifestaient partout. Crapauds et hérissons, en véritable commando suicide, envahissaient les autoroutes les jours de grands départs en vacances, provoquant embouteillages et carambolages monstres. Depuis longtemps, les renards avaient investi les abords des villes. Ils entraient maintenant dans les maisons, montaient dans les immeubles, ouvraient les portes, dévalisaient sans vergogne et sans crainte les réfrigérateurs et les congélateurs. On cita même des morsures sur les habitants et quelques cas de rage dans l'Est. Des nuées de papillons nocturnes envahissaient les grandes villes, transformant les éclairages et les publicités en vagues lueurs nébuleuses et ouatées. Agressions et vols augmentaient considérablement à la faveur de cette quasi-obscurité. Au Canada, Montréal connut une véritable invasion d'ours blancs, lesquels, comme chacun sait, ne descendent guère plus bas que le Manitoba, mais surtout viennent rarement faire du shopping en ville. On pourrait citer encore un sit-in obstiné des chevaux de la garde républicaine sur les Champs-Élysées lors du grand défilé du 14 juillet, auquel on dut renoncer. Une action dont le succès inspira sans doute le blocage en Italie de l'autoroute A3 entre Naples et Salerne par un monstrueux rassemblement de bufflones. Une latteria industrielle, célèbre pour sa mozzarella, faillit ne pas se remettre de l'inévitable arrêt de production qui s'ensuivit. Ici et là, au hasard des mers, quelques bateaux de pêche, délestés de leur cargaison par des hordes de goélands, de cormorans, de fous de bassin, de macareux et même de pingouins et de pélicans, échappèrent de peu à de meurtriers naufrages. Des gens doctes et sentencieux, des savants, des philosophes, des religieux, des politiques, s'interrogeaient, se consultaient, affirmaient tout et son contraire. Les écologistes surtout clamaient qu'ils l'avaient bien dit. Mais la vérité était que personne n'avait rien vu venir. Des illuminés prédisaient la fin du monde pour la fin de l'année, pour le mois prochain, pour tout de suite. Mais cela avait déjà été si souvent annoncé pour rien que plus personne n'y croyait. Et puis, il y eut en France l'affaire Giroflée. Giroflée est belle, indéniablement. Tous les spécialistes et même les profanes l'affirment. Ronde et belle, jeune encore, douce et affable, rieuse, un peu gourmande, câline. Sa jolie tête typée, aux petites oreilles attentives, ses fesses joliment galbées, sa queue souple d'un beau noir tranche harmonieusement sur le rose blond délicat du reste de son corps replet. Giroflée est une cunoire limousine, une race porcine qui faillit disparaître au nom de la sacro-sainte productivité. Hier encore, Giroflée était inconnue, vivant une adolescence heureuse et choyée dans un joli coin de Haute-Vienne, aimant par-dessus tout les longues flâneries vivandières dans une campagne boisée, odorante et tranquille, sous les chênes aux glands succulents. Il y a quelques semaines s'ouvrit à Paris le salon de l'agriculture. Sans savoir comment ni pourquoi, Giroflée s'y trouva propulsée. À 18 mois, elle découvrait un monde nouveau, déconcertant, un peu effrayant. Certes, elle était surveillée, protégée, bichonnée par Nicolas, son propriétaire, qui veillait à son confort. Sa litière était fraîche et craquante, sa nourriture choisie complétait des glands qu'elle aimait tant. Mais la chaleur, les lumières aveuglantes, une musique tonitruante, des odeurs chaudes de nourriture humaine, de boissons alcoolisées, la fatiguaient, l'inquiétaient. Et ces gens, tous ces gens qui passaient, se bousculaient par l'effort, riaient. Beaucoup s'arrêtaient devant son enclos, certains l'apostrophaient en bredouillant des bêtises, des appels bétifiants, se penchaient, voulaient la toucher, la palper. Giroflée ne déteste pas les caresses, les tapes amicales, les chatouilles, elle les accepte avec plaisir de Nicolas qu'elle connaît depuis sa prime enfance. Mais tous ces inconnus, aux gestes hésitants, aux voix criardes, aux odeurs parfois écœurantes, l'agaçait, lui faisait même un peu peur. Pourtant, au fil des heures, elle s'habitua. Elle fut flattée de l'admiration que lui manifestèrent quelques-uns de ses visiteurs. Elle essaya même, mais Nicolas l'en empêcha, de grignoter la jolie médaille qu'elle reçut après avoir défilé avec quelques congénères. Giroflée est intelligente. Elle sut vite qu'elle était une véritable vedette dans sa catégorie. Elle n'en fut pas moins affable et lia quelques amitiés. Ses voisines de boxe, des blancs de l'Ouest, l'intriguaient par la pâleur de leur soie, presque blanche, sans une seule trace de ce noir dont Nicolas était si fier. Fouineuse et Eclipse, un peu plus âgée qu'elle, avaient déjà donné le jour à plusieurs portées de gorets, tout aussi blancs. D'ailleurs, Fanfan, le géniteur des petits, dans le box voisin, plastronnait, sûr de lui, de ses gènes, de ses médailles. Mais, séduisant, s'avouait Giroflée, étrangement ému. D'un box à l'autre, dans le calme enfin revenu de la nuit, on bavardait beaucoup. C'est ainsi que Giroflée apprit ce que serait son destin. Dans quelques mois à peine, devenu adulte, atteignant près de 200 kilos, Nicolas la livrerait quelques heures à un mâle qu'il choisirait lui-même pour ses médailles et non pour son charme. Encore heureux si elle ne devrait pas se contenter de la visite d'un homme armé de seringues pleines de la semence d'un verra qu'elle ne rencontrerait jamais. Elle donnerait le jour à une portée de 6 à 8 gorets, au cul noir, qu'on lui retirerait assez vite pour ne pas la fatiguer, car elle devrait bientôt recommencer 2 fois par an, en moyenne, de vrais travaux forcés. Et quand elle serait épuisée par ses maternités répétées, elle ne pourrait même pas enfin jouir en paix des glandées luxuriantes de son pays. Devenue improductive, bouche à nourrir sans compensation, elle serait livrée au bourreau pour devenir au mieux saucisson, trop vieille pour de savoureux rôtis. C'était un horrible destin. Fouineuse et Eclipse y étaient apparemment résignées. Elles se félicitaient même de leur sort enviable, car, représentantes de races rares et recherchées, elles jouissaient de bien des avantages. Elles échappaient à des rythmes de reproduction forcenés, à la promiscuité des élevages en batterie que Giroflée ne connaîtrait pas non plus. Mais Giroflée ruminait, si l'on ose dire. Au fil du temps, des conversations nocturnes, des rencontres fortuites, des propos surpris au passage des visiteurs, la stupeur, la consternation de Giroflée devinrent de l'indignation, de la colère. Une indignation et une colère qu'elle sut faire passer de boxe en boxe, de stall en stall, de stand en stand. Il fallait agir. Et c'est ainsi que le dernier jour du salon, les ultimes visiteurs, incrédules, découvrirent dans la paille, soigneusement attachée, bien brossée, bien rasée, mais écumant de rage, tous les gentils exposants. Les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres, les poules, les lapins, les cochons et bien d'autres animaux plus exotiques s'égayaient joyeusement dans Paris, faisaient du lèche-vitrine sur les Champs-Élysées, broutaient dans les squares, visitaient le Louvre, semant une monstrueuse pagaille. En urgence, il y eut un conseil des ministres extraordinaire. La police et l'armée furent déployées pour remettre de l'ordre. La plupart des animaux furent rendus à leurs propriétaires, non sans difficulté, toutefois. Mais on n'a toujours pas retrouvé ni Giroflée, ni Fanfan. Ces jours derniers, des gardes-chasse, en forêt de Compiègne, ont rapporté avoir observé une surprenante harde de sangliers. À leur tête, 2 adultes, étonnamment gros. L'un d'eux, totalement blanc, et l'autre, à peine plus petit, au corps d'un joli blond rosé, mais la tête et le cul très noirs. Les marcassins qui les suivaient, loin d'être rayés de gris et de roux comme habituellement, arboraient des robes où le blanc, le blond rosé et le noir se mélangeaient allègrement. Les animaux disparurent rapidement. On les recherche activement. Les savants s'interrogent. Maladie de peau, albinisme, mutation génétique. Ah, au fait, le 1er avril 2014 s'ouvrira à Stockholm le Symposium mondial de la condition animale. 2 avril 2013. Ici se termine Giroflée de Françoise Mangeot.